7 milliards de voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, je reçois Théo Curin, nageur de l'extrême à tous les points de vue. Bonjour Théo Curin.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir chez 7 milliards de voisins. Face au handicap, faire de sa différence une force, c'est un peu votre devise. Champion de natation handisport, vous racontez votre histoire dans un livre au titre un peu provoquant, La chance de ma vie. Vous avez été amputé des 4 membres à l'âge de 6 ans, à la suite d'une méningite bactérienne foudroyante. Vous aviez par ailleurs la phobie de l'eau et vous avez aujourd'hui 21 ans. Vous êtes devenu sportif de haut niveau dans l'équipe de France de natation, vice-champion d'Europe, double vice-champion du monde en 200 mètres et 100 mètres nage libre. Vous avez aussi traversé le lac Titicaca à la nage en novembre dernier. 122 km dans des conditions assez apocalyptiques, vous nous en parlerez. Votre histoire, c'est surtout celle d'une reconstruction et vous proposez un autre regard totalement décomplexé sur le handicap. Vous aimez renvoyer une image que tout est possible, mais avec 4 membres en moins, avec vos 160 000 abonnés, même 161 000 hein, sur Instagram. Oui. Quoi, faites pas semblant, vous peut-être, regardez ouais. Tous les jours.
Non, même pas.
Et combien sur TikTok?
Je sais pas. Franchement, je suis pas souvent sur TikTok, mais il y a beaucoup de monde, c'est vrai, c'est dingue.
Oui, et je vois déjà le sourire qui se dessine. Beaucoup, en tout cas, vous courtisent pour cette volonté positive. Alors, combien de Théo Curin faudrait-il pour que la société bouge un peu plus, un peu plus concrètement? Avec vous, on va aussi et surtout beaucoup parler de sport, de performance, d'aventure. Vous nous direz ce que le handisport apporte aussi de tout à fait nouveau dans l'inclusion et la manière de voir la différence, même si vous êtes aussi assez critique sur le handisport aujourd'hui. En fin d'émission, un tout autre sujet, quoique j'espère que vous resterez avec nous jusqu'à la fin. Un de nos portraits de l'Afrique qui gagne par Raphaël Constant. Aujourd'hui, l'ex-lutteuse sénégalaise Isabelle Sambou, 1m52, tout en muscles. Elle a obtenu la 5e place mondiale aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. À 42 ans, elle est maintenant coach de l'équipe mixte du Sénégal.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve, tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour qu'on n'en forme qu'un seul.
Théo Curin, vous avez grandi près de Lunéville, à Lunéville, près de Nancy, je le précise pour nos auditeurs qui sont à l'autre bout de la planète, c'est dans le nord-est de la France. Vous venez de recevoir un vélo pour votre anniversaire et un mois plus tard, vous allez tomber gravement malade. Vous dites dans votre livre que vous avez finalement peu de souvenirs de votre vie valide avant 6 ans.
Oui, j'ai plus du tout de souvenirs en fait avant de tomber malade. J'ai peu de souvenirs de l'hospitalisation et c'est assez drôle parce que grâce à ce livre justement, j'ai appris des choses sur moi. Le fait d'enquêter un petit peu sur ma vie, ça m'a permis de me rendre compte de pas mal de choses et d'écouter mes proches. Donc c'est assez drôle d'écrire son livre et d'en apprendre sur soi-même. Mmh. C'est assez paradoxal.
De rembobiner le film, entre le moment où vous êtes entre la vie et la mort à l'hôpital et le moment où vous allez retrouver 2 prothèses à la place de vos jambes, il va s'écouler combien de temps en fait?
Il va s'écouler plusieurs mois. Déjà, je suis resté plus de 5 mois hospitalisé à Brabois, à côté de Nancy. 5 mois, c'est le temps qu'il a fallu aux chirurgiens, aux professeurs, aux médecins qui suivaient mon dossier pour trouver, on va dire, les choses nécessaires pour arrêter la propagation de cette maladie. Qu'est-ce que c'est la méningite? C'est tout simplement une bactérie qui se balade dans mes vaisseaux sanguins et qui nécrose petit à petit les extrémités de mes mains et de mes pieds. Et en fait, on teste tous les traitements possibles et imaginables. Et en fait, les amputations étaient le dernier recours.
Vous êtes hospitalisé à l'hôpital de Nancy, donc plusieurs mois d'hospitalisation, 2 ans de rééducation. Rien que 2 ans pour faire le cours préparatoire, parce qu'il y avait l'école, hein, au centre de rééducation. Tellement les soins étaient prenants dans vos journées.
Ouais, c'était très très intense. Hein. C'est aussi pour ça, peut-être que j'ai apprécié et on va dire validé le fait de devenir nageur paralympique. Parce que quand on fait du sport à haut niveau, on s'entraîne tous les jours, il faut une rigueur. Et en fait, quand on est en rééducation, c'est un petit peu la même rigueur qu'il faut avoir. Parce qu'on s'entraîne tous les jours à marcher entre des barres parallèles, à aller plusieurs fois chez le kiné, à aller chez la psychologue. Et en fait, on est suivi par une équipe un petit peu comme un staff de sportifs. Et c'est ça qui est assez intéressant.
Et l'école en parallèle.
Et l'école en parallèle en plus. Et c'est pas ce que je préférais en plus.
Alors, avec un handicap hors norme, vous allez bénéficier de soins, d'attention incroyable de toute une équipe. Vous avez cité les kinés, il y a les médecins, les chirurgiens, les infirmières, vos parents aussi qui sont le moteur de votre reconstruction. On ne les sent jamais démoralisés dans votre histoire.
En tout cas, pas devant moi. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Justement, les gens disent que le titre de mon livre est provocateur, alors que pas du tout. La chance de ma vie, pour moi, ça veut dire tout un tas de choses. Ça ne veut pas dire que ma maladie, bien au contraire. Ça veut dire la chance d'avoir eu cet entourage-là, d'avoir eu des parents ultra courageux, d'avoir eu une grande sœur ultra courageuse, d'avoir aussi toutes les sollicitations et toutes les opportunités que j'ai aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui, la chance de ma vie. Ce n'est pas du tout que mon handicap. Et c'est vrai que oui, mais mes parents ont été terriblement courageux. J'ai jamais vu de désespoir ou de tristesse dans leurs yeux. Évidemment qu'ils ont dû être tristes. Évidemment qu'ils ont dû se poser un milliard de questions, mais pas devant moi. Et c'est ça qui a fait leur force.
Alors justement, les voisins et les voisines ont envie de vous poser des questions parce qu'ils vous connaissent. Où que vous soyez dans le monde, les voisins et les voisines, vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41 et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Théo Curin sur la discipline sportive, la natation, sur son parcours, etc. On est en ligne avec Claude qui est à Bounia, en République démocratique du Congo. Bonjour Claude.
Bonjour Emmanuel, bonjour Théo.
Oui, bonjour.
Claude, vous avez une question pour Théo Curin.
Oui, je voulais juste savoir, quand il a grandi pour être conscient de son handicap, comment il s'en est pris? Comment il s'est adapté et a eu un nouveau comportement?
C'est une très bonne question. C'est une question qu'on me pose régulièrement. Et en fait, j'ai eu, on va dire, de la chance, encore une fois, dans ce qui m'est arrivé. C'est d'être tombé malade super jeune. Et j'ai l'impression que quand il nous arrive un pépin, quand on est jeune, et ben on a encore plus de facilité à rebondir plus rapidement. Parce que moi, à 6 ans, j'avais rien fait de ma vie. À 6 ans, on n'a pas fait grand-chose dans notre vie. J'aurais eu cette maladie à 20 ans, à 22 ans, c'était beaucoup plus difficile. Parce qu'on a une amoureuse, on a une vie professionnelle, enfin, on commence à sortir de l'école, etc. Alors qu'à 6 ans, en fait, c'est beaucoup plus facile de se reconstruire. Et tout de suite, moi, je me suis lancé des challenges. Mon premier challenge en sortant de l'hôpital, c'était absolument de remarcher le plus vite possible. Et en fait, j'ai utilisé ça tout au long de ma rééducation. Je me lançais des objectifs quotidiennement.
Ouais. D'ailleurs, on vous voit sur les photos à 6 ans, quand vous êtes debout entre les barres parallèles où vous vous remettez debout les tout premiers temps, vous avez la banane, quoi. En fait, vous vous marrez tout le temps.
Bah, c'est évident. C'est évident. Et
comme
c'est...
s'il y avait quelque chose de très ludique dans cette aventure qui est en même temps très dure.
Bah c'est ludique, mais c'est surtout en fait de la fierté dans ce sourire. C'est juste en fait incroyable de se lever de ce fauteuil qui m'embêtait parce qu'il ne me permettait pas de faire certaines choses. Et en fait, oui, c'est dans ce sourire, c'est de la fierté, c'est tout simplement aussi un copier-coller du sourire que mes parents ont ce jour-là. C'est assez dingue ce qui se passe.
Merci beaucoup, je suis satisfait.
Merci beaucoup, Claude, ça me fait plaisir.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Constantin, il est en ligne avec nous. Il est à Lomé, au Togo. Bonjour, Constantin.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Théo.
Bonjour.
Vous connaissiez Théo avant qu'il soit dans notre émission? Vous aviez entendu parler de lui ou vous avez été vous renseigner?
Bon, j'ai été renseigné puisque je ne connais pas très bien Théo. Je l'ai connu par le biais de l'émission 7 milliards de voisins.
Ouais, d'accord. Donc, vous avez été voir un peu sur Internet.
Ouais, c'est ça. Et tout d'abord, je tiens à féliciter vraiment Théo parce que ce n'est pas du tout facile de vivre dans de telles situations et de continuer par persévérer, par avancer dans la vie.
Bah, merci beaucoup, ça me touche. C'est adorable.
Là, maintenant, ma question est la suivante. Où avez-vous trouvé cette hardiesse et puis cette détermination pour devenir vice et double vice-champion du monde de natation?
Bah, c'est tout simplement grâce à mon entourage, cette envie de d'accomplir des rêves, cette envie de tout défoncer, c'est tout simplement grâce à mes proches. J'ai toujours eu envie de me battre et de relever des challenges. Aussi, la chance que j'ai eue, c'est en tombant malade, je me suis fait une promesse en sortant de l'hôpital, celle de tout vivre à 100 000%, en fait. Quand on se rend compte que la vie, ça peut basculer du jour au lendemain, et ben, on se dit, OK, et ben, à partir de maintenant, je vais tout vivre, quoi. Si demain j'ai une opportunité, je vais essayer de la saisir. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais tout ce que je fais aujourd'hui. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Et en fait, j'ose. Et j'invite tout le monde à oser, en fait.
Ouais, qu'est-ce qu'il vous reste à faire à 21 ans, je me demande, hein, franchement. Parce qu'on n'a pas encore tout raconté de votre vie, hein, de votre courte vie, Théo Curin.
OK. Sinon, bon, franchement, j'adore sa mentalité. Et il a une mentalité de fer. Et j'exhorte tout le monde à agir comme Théo.
Merci beaucoup. C'est adorable.
Merci à vous, Constantin. Dans le livre Théo Curin, il y a une sorte de devise, ne jamais se laisser démonter, à chaque problème une solution. C'était la philosophie de la famille Curin. Dès la minute où je suis sortie vivant de l'hôpital, j'ai eu l'impression que le pire était derrière nous, qu'il ne pouvait plus rien nous arriver de grave.
Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai tendance, avec mes proches, à toujours relativiser. À regarder que le bon côté des choses. Je trouve qu'il y a des choses positives à tirer, en fait, dans chacune des situations qui peut nous arriver. Donc, ouais, c'est vrai, aujourd'hui, je relativise beaucoup. Il y a même des gens qui me reprochent d'être trop positif. Mais trop optimiste.
Ils disent quoi ? Il y a un truc,
Mais quand je raconte ma vie, ils me disent, mais Théo, il n'y a pas des moments où tu as plus galéré, etc. Mais je dis, non, moi, aujourd'hui, évidemment, il y a eu des moments difficiles. Et évidemment que je n'ai pas accepté du jour au lendemain le regard des autres. Évidemment que je n'ai pas accepté mon corps du jour au lendemain. Par contre, aujourd'hui, comme j'ai fait abstraction de tout ça, évidemment, je suis heureux. Évidemment, des fois, j'ai des coups de moins bien et je stresse, j'ai peur, je suis triste comme n'importe qui. Mais moi, ce que je garde en tête tout le temps, c'est le positif.
Comment et pourquoi la natation, alors que finalement déjà avant votre maladie, vous étiez plutôt un peu phobique de l'eau, et qu'ensuite, après la maladie et une fois amputé des quatre membres, vous dites que vous êtes mal à l'aise avec votre corps, que vous redoutez le regard des autres, précisément sur un corps qui n'a plus de prothèses de jambes, puisque pour nager, là, à la piscine, on enlève les prothèses de jambes.
Ouais. Quand je nage, j'ai pas du tout de matériel, je nage sans prothèses. Et en fait, il m'a fallu un déclic, une rencontre surtout avec Philippe Croizon, l'homme qui est amputé des quatre membres comme moi et qui a traversé la Manche à la nage il y a quelques années. Et quand je l'ai rencontré, ça m'a fait un petit déclic dans ma tête en me disant, si lui, il y arrive, moi aussi, je dois y arriver. Et je trouvais que c'était un joli message que j'envoyais à mes proches en leur disant, vous avez vu, on a galéré pendant des mois et des mois, mais pas pour rien, je vais vous prouver que je vais même aller au contre de ma phobie. Et je me suis entraîné dans mon coin petit à petit et jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait l'eau et la natation c'était le seul élément et le seul sport qui me permettrait de me déplacer comme tout le monde, parce que j'ai plus de fauteuil et parce que j'ai plus de prothèse. Et c'est ça qui est fou.
Comment vous faites concrètement, ça les auditeurs ont envie de savoir, pour vous propulser dans l'eau? On va peut-être réexpliquer jusqu'où vous êtes amputé, pour les bras, pour les jambes.
Alors moi, en fait, j'ai de la chance, encore une fois, dans mes amputations, parce que j'ai la chance d'avoir mes quatre articulations. Donc j'ai mes deux coudes et mes deux genoux. Je suis amputé au niveau des tibias et au niveau des avant-bras. Donc en fait, j'ai quand même un petit peu de surface d'appui, ce qui me permet d'appuyer un petit peu dans l'eau. Et l'avantage, et on va dire ma technique pour avancer, c'est de tourner les bras plus vite qu'un nageur normal, tout simplement.
Ouais. Vous nagez le crawl?
Toutes les quatre nages.
Le papillon.
Ouais.
Pour la brasse, ça a été plus compliqué au départ.
Ouais.
Les entraîneurs n'y croyaient pas.
Ouais.
Pourquoi ?
Bah parce que tout simplement, on ne voit pas un mec comme moi tous les jours à l'entraînement. Et les entraîneurs ne sont pas du tout, on va dire, entraînés pour ce genre de choses. Ils ne savent pas du tout quoi faire. Et en fait, en imaginant certaines choses, en revoyant en fait un petit peu la théorie normale, et bah en fait, on arrive à progresser et à faire quelque chose.
Ouais. Comment est né ce désir de la compétition? Vous avez établi le parallèle tout à l'heure entre finalement les journées qui sont déjà très très denses au centre de rééducation. Il y a tout un staff, il y a déjà un peu cette ambiance équipe de France finalement dans le centre de rééducation où tout est mis en œuvre pour que vous réussissiez à remarcher, à être autonome, à vous servir de ce qui vous reste de vos quatre membres. Comment l'idée de la compétition et du handisport est arrivée dans votre tête?
Elle est venue progressivement. Le jour où je me suis où justement je me suis fait cette réflexion je me déplace comme tout le monde, j'ai pas de prothèse, j'ai pas de fauteuil, j'ai continué à nager parce que je me sentais de mieux en mieux, jusqu'au jour où en fait un entraîneur m'a demandé si je souhaitais faire une compétition pour voir un petit peu ce que ça me procurait, si j'aimais ça ou non. Et en fait, à cette première compétition, je me qualifie au championnat de France. Et c'est une grande surprise, je m'y attendais pas du tout. Donc ça a commencé sérieusement à partir de ce jour-là, ouais.
Alors vous êtes incroyable parce que vous êtes un sportif vraiment joyeux. Il y a certains champions qui ont un petit côté un peu taciturne. Mmh. Vous, c'est pas du tout votre cas. Vous dites « je veux retenir que le positif », mais en réalité, dans votre livre, il n'y a pas que le positif. Il y a aussi ce moment où à la fois les entraîneurs voient votre exceptionnel talent de la glisse dans l'eau, à avancer d'une manière incroyable, à fendre l'eau. Et en même temps, ils disent il y a une perplexité chez eux pour trouver les moyens de contourner l'absence de mains, surtout. Pas tant que ça de jambes, parce que par exemple, pour le crawl, c'est moins déterminant. Mais par rapport à d'autres nageurs handisport, c'était quoi les problèmes techniques sur lesquels vous avez buté et que vous avez réussi à dépasser ?
C'est tout simplement le manque de surface qui permet d'avancer. Il y a pas besoin de faire trop d'images là-dessus, mais en fait un nageur qui a ses mains, et c'est tout simplement beaucoup plus avantageux qu'un nageur qui n'en a pas. Les mains, c'est un petit peu comme une espèce de palme pour les mains, et qui permet de prendre une bonne surface de l'eau, en plus avec l'avant-bras et une partie du bras. Donc moi, en fait, on m'enlève pratiquement 50% de cette surface. Et qu'est-ce qu'on fait pour compenser un peu ce manque de surface? Et en fait, on rajoute des coups de bras. On rajoute une motricité supplémentaire. C'est-à-dire qu'un nageur lambda, il va peut-être mettre 25 coups de bras sur une longueur. Et moi, je vais en mettre
une
le
longueur
double.
De combien alors là? Un 50 mètres, un 25 mètres?
Un 25 mètres, ouais. Par exemple. Mm-hmm. Ouais, c'est à peu près un coup de bras par mètre pour un nageur valide. Et moi, je vais mettre le double, tout simplement.
Ouais. Et vous arrivez à avancer suffisamment vite. Comment elle se passe, cette lutte pour le chrono?
Elle se passe en s'entraînant tous les jours.
Alors, il y a de la muscu, beaucoup, pour tous les athlètes. Hein.
C'est ça, en fait, c'est de l'entraînement tous les jours, quotidiennement. Des fois, deux entraînements de natation, des fois, deux entraînements de natation plus une musculation au milieu. Et en fait, c'est en habituant son corps à l'effort, en allant chercher un petit peu aussi nos limites, qu'on progresse. C'est souvent dans les entraînements où on se sent le plus mauvais qu'on progresse le plus. C'est ça qui est assez dingue.
Vous vous entraînez à Vichy, c'est la section natation handisport. Il y a énormément de matériel, pas forcément toujours adapté d'ailleurs à votre handicap.
En termes de musculation, c'est vrai que quand on arrive dans une salle, c'est vrai que c'est pas spécialement pensé pour les mecs qui ont pas de bras. mais justement, c'était un bel objectif qu'on s'était lancé avec mon entraîneur qui m'a entraîné pendant 7 ans, Fabien Maltrait. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire dans cette salle de musculation? Et en fait, on va tout simplement imaginer des choses pour adapter les appareils de musculation. Donc Fabien a réfléchi à pas mal de choses parce que c'était un bricoleur. Il a eu l'idée de petites sangles qu'on accrochait à mes bras avec une corde, avec un mousqueton, et ça me permettait de faire du tirage comme dans une salle de musculation lambda.
Pour muscler le dos,
pour muscler le dos, les pectoraux, les épaules, les biceps, n'importe quelle partie du corps. Et c'est ça en fait qui est assez fou, parce qu'aujourd'hui j'utilise toujours ce matériel dans n'importe quelle salle en France ou à l'étranger.
Ouais, on sent chez vous une jubilation permanente, Théo Curin. Vous êtes le roi des vannes sur votre propre handicap.
Ouais.
Ouais, ça aussi, ça détend tout le monde autour de vous.
Mais en fait, moi, j'ai toujours dit que j'ai deux armes dans la vie. Moi, c'est l'amour et l'humour. L'amour, parce que c'est ça qui m'a sauvé la vie quand je suis tombé malade. L'amour de mes proches, l'amour des gens que j'aime. Et l'humour, parce que ça m'a permis de dédramatiser la situation. La première fois, je raconte cette anecdote dans le livre, où je suis rentré de l'hôpital pour une autorisation un week-end et que ma mère a fait mon plat préféré, des spaghettis à la bolognaise. Et en fait, on se retrouve un petit peu comme un con devant l'assiette de pâtes, parce que je sais pas du tout comment faire pour manger ces pâtes-là.
Ouais, et ça, en fait, ça aurait pu être une crise de larmes
mais
totale,
c'est ça,
en
mais
fait.
Oui, parce qu'en fait, j'aurais pu me dire, mais je suis nul, j'y arriverai jamais, etc. Et en fait,
parents auraient pu être totalement désespérés.
Exactement. Et puis je mets des pattes partout, ça tombe par terre et tout. Et là, franchement, on aurait pu être triste. Et en fait, on a décidé d'en rire. Et à partir du moment où on a décidé de rire de cette situation, et en fait, ça ça annonçait un peu la couleur de ma vie, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse aussi, quelque part.
Alors ceci, la réalité aussi, c'est que vous êtes né, vous avez grandi dans un milieu modeste. Hein. Oui. Votre papa est à la SNCF et votre maman, au départ, était hôtesse de caisse en supermarché. Elle avait arrêté de travailler pour vous, donc il n'y a pas beaucoup d'argent.
Non.
Et en fait, vous le racontez bien dans votre livre, être à ce niveau de handicap, ça coûte une fortune. Oui. Les prothèses coûtent très cher, tout coûte extrêmement cher et des gens vont vous conseiller de créer une association pour recueillir des dons. Et ça, c'est pas du tout dans la culture de vos parents.
Ben non. Non, non, c'est vrai. Ben en fait, déjà, dans notre culture, ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour me permettre de faire certaines activités, certaines choses. Et on nous propose de faire une association, mais nous, on n'y connaît rien du tout. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu perdu à ce moment-là, ouais.
Ouais, ça a bien changé. Hein. Aujourd'hui, vous avez un agent.
Ouais.
Théo Curin, vous restez avec nous. On va parler de votre traversée du lac Titicaca en novembre dernier. 122 km, 11 jours avec deux autres nageurs en alternance. Une aventure collective absolument incroyable. À votre mesure d'ailleurs, hors norme. On se retrouve dans quelques instants, juste après Busy P.
Plus d'énergie, je suis parti avec trop. Futur, j'ai la répartie, on est OP. Mehdi Luffy et après Benji, après Santi, vont pas pouvoir stopper. Les placements viennent continentaux. Juste des gosses partis de presque R. Même le winter, je garde le continent chaud. Quoi qu'il en coûte et quand il en faut. Difficile de mettre des limites, de nous borner. Jusqu'ici, la musique a pas fini de nous former. Mon esprit est libre, mais le corps veut nous normer. Énorme, énorme, et les normes, et vous dormez. Pour eux, c'est le chiffre, et pour moi, c'est le kiff. C'est le frère, c'est la mère, c'est le fan, c'est le fils. C'est le début de la légende, c'est le tiek, c'est le 10, c'est le west, c'est le i, c'est le m. Peace.
Laisse-moi brûler le micro. J'suis au moteur, bas studio. On a mis son à fond en espérant qu'il entende tout là-haut. Laisse-moi brûler le micro. J'suis au moteur, bas studio. On a mis son à fond en espérant qu'il entende tout là-haut.
Notre invité chez 7 milliards de voisins sur RFI. La chance de ma vie, j'ai fait de ma différence une force. Vous êtes un champion de natation handisport. Vous avez été amputé des quatre membres à l'âge de 6 ans. Vous nous racontez votre histoire depuis le début de l'émission, votre histoire, ou plutôt votre parcours tout à fait hors norme, mais avec cette légèreté, cette grâce qui est assez quand même singulière chez vous. Vous avez été en équipe de France handisport pendant 7 ans. Pourquoi vous avez renoncé aux Jeux paralympiques de Tokyo ?
Alors, tout simplement parce que dans le paralympisme, il faut savoir qu'on est classé par catégorie de handicap. Pour faire bref, c'est en fait 10 catégories en natation, de S1 à S10. S1, c'est les handicaps les plus lourds. S10, c'est les handicaps les plus légers. Et moi, je me retrouvais dans la catégorie S5. Donc, tout allait bien, je progressais. J'étais le quatrième aux Jeux de Rio. Mais voilà, c'était envisageable pour moi pour la suite.
Donc, S1, S5, ça veut dire catégorie priori moyennement, lourdement handicapé. C'est un peu comme ça qu'on pourrait...
C'est ça, on peut appeler ça comme ça, c'est au milieu des catégories, c'est vrai. Après, il y a des handicaps en S7 et en S8 qui sont quand même assez conséquents, donc je pense que, voilà.
Ça peut être quoi S7, S8? Alors racontez-nous un peu, parce qu'on détaille jamais tellement finalement ce système qui est très complexe.
Mais c'est tellement complexe en fait que je pourrais même pas vous dire S7, S8, c'est tel et tel handicap, parce qu'en fait ça change tout le temps. Il n'y a pas un handicap qui se ressemble et on ne peut pas faire une catégorie par handicap, parce que sinon il y en aurait 1 milliard. Et par contre, je suis persuadé que demain on peut faire une catégorie où il y a, on va dire, une certaine égalité. Et moi, en fait, j'en ai fait les frais de ces problèmes de classification, parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvé contre des mecs qui avaient leurs deux mains. Donc là, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'ils sont quand même très avantagés. Et voilà, c'était pas évident.
Mais comment c'est possible? Parce que vous racontez un épisode, alors ça se passe avant, où on vous demande de nager. D'abord, on vous mesure les membres. Et bon, pour bien détailler la nature de votre handicap, jusqu'à quel point vous êtes handicapé ou pas, etc. Et on vous demande de nager, et là, vous faites une super performance. C'était à Forbach, ça, c'était quand?
Je ne sais plus du tout.
Il y a déjà pas mal de temps, c'était au début.
C'était au tout début, j'ai commencé par cette classification, et c'est vrai que c'est des examens en fait, qu'on nous passe avec des médecins.
C'est ça, parce qu'au début, on commence à vous dire que vous seriez entre S3 et S4 comme classification, et puis là, vous commencez à nager. Vous dites, ah ben non, mais ils se débrouillent vachement bien, donc finalement, on met la barre plus haut. Et c'est ce qui s'est passé ensuite par la suite dans l'enchaînement des classifications.
En fait, il faut savoir que la classification, si on rentre un peu dans les détails, elle se passe en deux parties. Il y a une première partie où, en fait, c'est un examen sur table. Donc, en fait, on regarde uniquement la pathologie. Et ensuite, il y a un deuxième examen, et en fait, c'est un examen dans l'eau. Et on regarde comment le nageur se débrouille. Et c'est à ce moment-là que, quand je suis sorti de l'examen sur table, on m'a dit, tu seras S3 ou au max S4. Et en fait, quand je suis allé dans l'eau, ils ont vu que j'utilisais bien mon handicap dans l'eau, que j'arrivais à faire des virages en culbute, vous savez, la petite pirouette, que j'arrivais à faire des départs sur le plot de départ en poussant avec mes genoux. Et en fait, c'est assez paradoxal, parce que quand on réfléchit, ça veut dire que si on nage correctement, on est désavantagé, parce qu'on va se retrouver avec des mecs qui sont moins handicapés que soi. Et c'est ce qui est arrivé en fait quelques années plus tard pour moi. Et c'est très très dur de faire des sacrifices depuis l'âge de ses 13 ans pour voir un peu son projet et son rêve s'éloigner, non pas parce qu'on fait pas suffisamment de sacrifices, mais parce qu'en fait c'est mathématique et physique.
Mais ça veut dire que si vous aviez moins bien nagé au moment des tests, vous auriez bénéficié d'une classification moins discriminante, moins inéquitable?
Peut-être, c'est sûrement ça.
Vous avez un regard assez dur sur le handisport aujourd'hui.
Ouais, parce qu'en fait, ce qui m'a très énervé, c'est que il peut avoir des inégalités. Il y a des inégalités partout aujourd'hui dans le monde. Mais il y a des gens qui se battent pour ça, pour en fait arrêter ces inégalités. Et moi, j'avais envie d'arrêter tout ça, de me battre pour que ça devienne juste pour tout le monde. Parce qu'en fait, ces problèmes d'inégalité, on le voit dans d'autres sports, dans d'autres disciplines paralympiques. Et moi, j'avais envie de me battre pour ça. Et du coup, j'ai envoyé une lettre à ma présidente de la Fédération d'e-sport qui m'a répondu en fait que j'étais jeune et que j'avais une grande marge de progression. Mais ma marge de progression, elle va pas me rendre mes mains et mes jambes. Donc en fait, les mecs qui sont devant moi, ils seront toujours devant moi, même si je m'entraîne 18 heures par jour. Et c'est ça qui m'a énervé. C'est ça, cette petite rancœur que j'ai sur le paralympisme. C'est pas sur l'idée du paralympisme, parce que l'idée du paralympisme, c'est génial, c'est énorme, c'est ce qui m'a reconstruit. Mais par contre, c'est les gens qui dirigent ces fédérations et ces comités qui me dérangent, par contre. Ouais.
Ce paralympisme, il a changé quand même en partie le regard de la société sur le handicap. Il a introduit une admiration pour la performance sportive, exactement au même titre que l'admiration qu'on a pour des champions olympiques, non paralympiques, exactement.
Mais c'est ça, en fait. Aujourd'hui, il y a une vraie marge de progression là-dessus. Et c'est vrai que c'est assez bien. Il faut le souligner. Il y a 10-15 ans, on n'entendait pas du tout parler des Jeux paralympiques. Aujourd'hui, ici, en France, on a plus de 100 heures de direct à la télévision. Donc, on est vraiment sur la bonne voie et ça commence vraiment à se démocratiser, ouais.
Je dirais pas que vous faites la mauvaise tête, mais vous allez vous diriger vers autre chose, finalement, parce que vous cherchez toujours à dépasser les obstacles et à ouvrir d'autres fenêtres. Et vous allez vous mettre dans la tête de traverser à la nage le lac Titicaca. Racontez-nous.
Oui, voilà, j'avais envie de mettre de côté, justement, ces problèmes de classification, ces problèmes de fédération pour me lancer mes propres challenges. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que je suis beaucoup plus épanoui dans ce genre de choses. Et c'est pendant le premier confinement que j'ai décidé de tout plaquer et d'écrire une histoire. Et cette histoire, c'est le défi Titicaca. Je voulais faire quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'à aujourd'hui, tout en partageant cette aventure. Donc, j'ai demandé à Malia Metella, une ancienne nageuse olympique française, de m'accompagner, et Mathieu Vitevoet, un éco-aventurier. Et on est partis tous les trois en totale autonomie, en tractant un radeau de 500 kilos pour traverser le lac Titicaca à la nage.
Alors, le lac Titicaca, il est entre la Bolivie et le Pérou.
Ouais.
C'est quoi les conditions du lac Titicaca? Parce que c'est loin, hein,
ouais,
pour
ouais.
nous, là.
C'est tout simplement...
On est en Amérique du Sud.
C'est le lac navigable le plus haut du monde en Amérique du Sud, entre la Cordillère des Andes. Et en fait, c'est 3800 mètres d'altitude. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pratiquement 4000 mètres. Et c'est environ 30 à 40% d'oxygène en moins. Donc, on a des problèmes respiratoires. L'eau est à 10 degrés et on a nagé 109 km avec un radeau de 500 kg à tracter à la nage.
Donc, en alternance, tous les trois, évidemment.
Oui.
Ouais. Comment ça se passait? Il y a un moment quand même où vous avez eu très chaud, c'est le cas de le dire, vous avez frôlé la mort, il y a des tempêtes sur ce lac.
Il y a en fait des conditions météo déplorables et extrêmes, avec des tempêtes, des orages, la foudre qui tombe pas loin de nous et même des vagues d'1,50 m. Alors que notre embarcation n'était pas faite pour ce genre de conditions, nous, on n'était pas du tout prêts à ce genre de conditions non plus. Donc oui, on a vraiment cru y passer plusieurs fois.
Vos capacités de nageur, évidemment, vous ont servi. Mais là, vous avez dû apprendre une discipline un petit peu différente. Ça s'appelle la nage libre. Vous avez eu un entraîneur spécifique.
Ouais, la nage libre, c'est tout simplement...
La nage en eau libre.
C'est la nage en eau libre normalement, mais la nage libre, on peut comprendre aussi la subtilité. Mais en fait, c'est tout simplement nager dans des milieux naturels, sortir du bassin où l'eau est chauffée à 29 degrés et on suit notre petit couloir de nage. Et ouais, j'ai été entraîné par Stéphane Leca, qui est un professionnel de cette discipline-là. Et c'est vrai qu'en fait, ça nous permet de sortir un petit peu des repères qu'on a et ça peut être un peu déstabilisant dans un premier temps.
Ouais. Ce lac Titicaca, donc en totale autonomie, en tirant un radeau, la traversée va durer 11 jours. Qu'est-ce qui était, sur le plan de la performance sportive, qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous en tant qu'ancien nageur de l'équipe de France handisport?
En fait, c'est, pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'était le manque de visibilité. Quand on est nageur professionnel, quand on s'entraîne tous les jours, quand on fait de la compétition, en fait, tout est calculé au millimètre près. On sait qu'à telle compétition, c'est tel week-end, il faut s'entraîner tant de fois, on voit les pics de séances qu'on va devoir faire, etc. Que là, en fait, dans cette expédition, on sait quand on partait. Mais on ne savait pas du tout quand est-ce qu'on allait arriver. On ne sait pas du tout ce qui allait se passer entre le point A et le point B. Des fois, il y a eu deux journées où on n'a pas nagé du tout à cause des conditions météo. Et nous, on n'a pas l'habitude de ça, les compétiteurs. Nous, on a trop de repères. Et en fait, c'était ce manque de repères qui était difficile pour moi.
Alors, c'est aussi la première fois que vous nagez avec deux autres personnes qui ne sont pas handicapées, qui sont donc une ancienne nageuse olympique et puis un aventurier, qui ont évidemment un très bon niveau de natation. Est-ce que c'était important pour vous, tout d'un coup, de mélanger des difficultés, de croiser des parcours complètement différents pour une seule et même obsession, arriver à l'autre bout du lac?
Bah ouais, tout à fait. C'était ça l'idée. En fait, moi, je voulais pas. Enfin, c'est un petit peu à l'image de ce que je veux véhiculer en fait au quotidien. Moi, j'ai pas envie de mettre dans des catégories les gens. Moi, je supporte pas en fait que les gens pensent que moi, je vais parler que de handicap. J'ai pas envie de ça, donc je me suis dit, je vais faire une aventure où on va mettre plusieurs personnes.
Ouais, et on parlera que de l'aventure.
Et on parlera que de l'aventure, parce que Malia, c'est une ancienne nageuse, ça fait 10 ans qu'elle n'avait pas nagé. Mathieu, c'est un éco-aventurier, donc lui, il se bat pour l'environnement. Et puis moi, j'ai mon handicap. Donc on a les trois messages différents. Et c'est ça qui a fait la force de ce trio, et c'est ça qui nous a permis d'aller au bout.
C'est une aventure qui a été très médiatisée.
Ouais, c'est vrai que c'était une aventure très médiatisée avec beaucoup de monde, que ce soit au Pérou, en Bolivie et même dans le monde entier. Il y a eu des articles qui sont sortis partout, en Europe, en Asie, en Amérique. C'était complètement dingue. Les retombées étaient bien plus folles que ce que je pensais. Et ce qui a plu, c'est ça en fait, c'est cette idée de trio qui partait à l'autre bout du monde pour réaliser un de leurs rêves. Et voilà, les gens aussi apprécient un petit peu aussi aussi les difficultés auxquelles on a fait face, c'est certain. Ouais.
Alors, vous faites de la télévision, vous êtes sollicité comme comédien. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. On sent que vous avez envie de sortir de cette bulle du handicap. Vous l'avez dit d'ailleurs, comme si un peu vous étouffiez aussi dans le handisport. Vous êtes sollicité pour des campagnes de pub, pour des grandes marques. Qu'est-ce que vous pensez des polémiques sur ce qu'on appelle le handicap washing, la mise en scène de la diversité, mais qui pourrait aussi concerner d'autres personnes qui représentent la diversité, hein, pas que le handicap?
Je trouve que c'est ça l'image en fait de la société. On n'est jamais content en fait. On n'est jamais content parce qu'on n'est pas content parce qu'on ne voit pas suffisamment de personnes handicapées à la télé, dans les pubs, etc. Et puis quand il y en a, on dit que c'est purement pour la publicité et pour faire de l'argent. Évidemment que c'est pour faire de l'argent, c'est une société qui se bat derrière. Mais la société prend le risque de mettre une personne atypique sur leur marque, sur leur campagne.
Oui, mais vous avez raison, mais en même temps, Théo Curin, vous reconnaissez qu'il y a des marques qui peuvent utiliser la visibilité du handicap alors que dans leurs entreprises, elles ne respectent pas forcément leurs obligations légales d'employer des personnes en situation de handicap, mais qu'elles ont envie, par exemple, de vous avoir comme porte-étendard de leur marque.
Moi, en fait, en tout cas, avec les marques avec qui je collabore, en fait, on a des valeurs communes. C'est ça, en fait, qui fait que j'ai envie de travailler avec elles. Les marques avec qui je travaille aussi, elles ont un but. Là, je fais une collaboration avec une marque de vêtements. Et ils se sont battus pour faire une capsule que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser. Et donc, je trouve que le message est quand même assez dingue. Et c'est pas uniquement pour la publicité. Et la marque de cosmétiques, en fait, on se bat aussi pour les valeurs qu'on a en commun, parce qu'en fait cette marque de cosmétiques se bat pour les océans et moi je me bats pour les océans aussi, et c'est pour ça, en fait, c'est juste des valeurs communes qui fait qu'on décide de collaborer ensemble. Ouais. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens essayent toujours de trouver des polémiques sur ce genre de choses, en fait.
Alors, sur les vêtements, c'est important de le dire parce que vous avez 21 ans, vous êtes super beau garçon, forcément vous êtes, c'est important aussi pour vous la mode, or c'est pas toujours simple de s'habiller pour vous. Vous dites carrément dans le bouquin, j'ai jamais compris pourquoi la mode était si moche pour les personnes en situation de handicap.
En fait, moi, j'ai jamais eu de problème en fait à m'habiller, mais à un moment donné, on m'a proposé des fringues, on va dire adaptées,
des
fringues adaptées, des fringues pour les handicapés, ouais, tout simplement, pour dire les choses correctement. Et en fait, je trouvais ça terriblement moche. Ça a aucun style, c'est laid. Alors peut-être que c'est facile à mettre et que ça peut aider certaines personnes. Par contre, c'est pas bien de faire des aussi moche. Et avec cette marque, on a décidé de faire une capsule, en fait, mais ouverte à tout le monde. Et c'est ça, en fait, que je trouve exceptionnel.
C'est un polo avec des aimants, il n'y a plus de boutons, donc on ne se prend pas la tête, il n'y a pas besoin de ses doigts, par exemple.
Un sweat à capuche avec des petites anses au niveau des manches pour remonter ses manches. Il y a pareil, une doudoune sans manches avec une petite poignée pour remonter la fermeture, avec pareil, des boutons aimantés. Ouais. C'est des choses toutes bêtes, c'est des choses qui sont très jolies aussi pour une personne valide. Et c'est ça qui est cool, cette capsule, vous pouvez autant la mettre que moi. Et c'est ça qui est bien.
Théo Curin, après le sport, comment vous voyez votre vie ?
On va dire à l'image d'aujourd'hui, il n'y a pas que le sport aujourd'hui et je suis très épanoui. C'est pour ça que je suis heureux. Ce que j'aime dans ma vie aujourd'hui, c'est la diversité en fait de mon quotidien. Je ne pourrais pas faire que du sport et je ne pourrais pas faire que de la télé et que du cinéma. Ce que j'aime, c'est me lever le matin et me dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui et puis une semaine après faire complètement autre chose. Et j'espère avoir ça, cette motivation et ce mode de vie toute ma vie, ou en tout cas jusqu'au plus tard.
Théo Curin, nageur de l'extrême, double vice-champion d'e-sport, comédien, on n'a pas tout dit, mais vous avez raconté votre histoire dans un livre qui s'appelle « La chance de ma vie, j'ai fait de ma différence une force ». C'est publié chez Flammarion. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ?
Avec plaisir.
Dans quelques instants, un portrait de l'Afrique qui gagne avec l'ancienne lutteuse sénégalaise Isabelle Sambou. Théo, vous savez que la lutte au Sénégal, c'est un sport qui est presque aussi sacré que le foot. On va le découvrir juste après Cats and Trees. You're the best kind of mind. You're like a fireball. Locked inside, you're super light. You're like a fireball. Be my pet. Clouds are falling from the sky. Un portrait de l'Afrique qui gagne, comme on aime vous les proposer d'ailleurs régulièrement chez 7 milliards de voisins. Anciennement reine des arènes, Isabelle Sambou était lutteuse sénégalaise professionnelle, 1m52 tout en muscles. Elle a obtenu la 5e place mondiale aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Aujourd'hui, elle a 42 ans et elle est coach de l'équipe mixte du Sénégal. Notre reporter Raphaël Constant l'a rencontrée à Pikine, c'est dans la banlieue de Dakar, pendant un entraînement dans le gymnase de l'arène nationale du Sénégal.
Retour.
Ce que j'aime dans ce sport, c'est ma tradition. Je suis né dans la lutte et j'ai grandi dans la lutte.
On va un peu plus vite. Tu continues la croision. Voilà. Vas-y.
Quand j'étais dans mon village natal, c'est à Moulon Prayer. Je suis l'ethnie Diola en Casamance. Et nous, en Casamance, les femmes luttent, les hommes luttent. Mes parents, ce sont des cultivateurs. On se met de riz, etc.
Alors, comment vous êtes passé de la riziculture à la lutte jusqu'au niveau olympique?
Quand on était petite, on luttait dans le sable. Et c'est là que mes frères m'ont détecté pour me dire que, tiens, tu luttes bien, donc tu peux faire la lutte moderne. Ils m'ont dit la lutte moderne, c'est la lutte olympique. C'est quelque chose de haut niveau. La différence juste, c'est les points. Et nous, si on terrasse, c'est fini. Mais là-bas, si tu terrasses, c'est pas fini. Parce qu'il y a de temps à faire. Va essayer pour voir. J'ai dit, OK. Et j'ai aimé. J'ai continué. J'ai participé des championnats d'Afrique. Et j'ai gagné.
Mais vous avez même été sacrée 9 fois championne d'Afrique de lutte.
Bien sûr. Et je me suis participé 2 fois aux Jeux Olympiques, 2012 et de 2016. À Rio, c'est des compétitions qui m'ont marqué beaucoup parce que les Jeux Olympiques, c'est très beau. C'est là où tu vois tous les champions du monde. Ça m'a apporté quelque chose. C'est pour cela que j'aime beaucoup la lutte.
Hop, 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 hop. Défense, défense.
Est-ce que c'est difficile, justement, en tant que femme, de se faire une place dans la lutte sénégalaise?
Très difficile. Il y a des hauts, des bas. Il y a d'autres qui vont te dire, tu fais cette discipline, tu vas devenir comme des hommes. Il y a d'autres qui vont...
Tu vas être trop musclé.
Ouais, tu te sens plus comme une femme, tu ne vas pas trouver un mari. Mais bon, quand même, il y aura d'autres qui vont te dire, ma soeur, écoute, il faut y aller, ce que tu fais, c'est très bon. Donc, rien ne va pas m'arrêter de faire la lutte parce que les gens ont dit. C'est difficile d'être une femme de haut niveau au Sénégal.
Donc, on fait technique, attaque aux jambes, c'est parti.
Et donc, Isabelle, après votre deuxième participation aux Jeux Olympiques en 2016, vous avez décidé de prendre votre retraite en tant que sportive de haut niveau. Et vous êtes rentrée au Sénégal alors que vous aviez aussi la possibilité d'une carrière à l'international. Ouais. Mais vous avez voulu rentrer.
Je suis revenue pour être un modèle de la lutte pour le Sénégal. Et je suis devenue entraîneur de l'équipe nationale de la salle de Dakar. Et l'équipe que j'ai entraînée ici à Dakar, c'est l'équipe mixte.
Alors du coup, quel accueil vous a été réservé?
Quand je suis entrée, je me suis assise avec eux, on a causé. Parce que parfois, les inconvénients, ça vient des garçons. Parce qu'ils se prennent des supérieurs, tout ça.
Vous êtes en train de gonfler les muscles,
ouais,
là, de me montrer.
C'est ça. Et d'autres, ils vont te regarder comme tu es une femme, tu ne peux pas être leur entraîneur. Mais c'est à toi de te faire respecter. Quand on monte dans le tapis, là, c'est moi qui commande. Et je veux qu'on me respecte et je les respecte eux. Celui qui ne suit pas les autres, la porte est ouverte.
Et alors, quand on est une athlète féminine au Sénégal, est-ce qu'on gagne sa vie?
Bien sûr, je gagne ma vie par des économies que j'ai faites, mais l'entraînement que j'ai fait maintenant, personne ne me paye. Je n'ai pas de salaire pour les entraînements. Donc, je fais des petits travaux ailleurs pour pouvoir gagner ma vie.
Comme quoi?
Comme la femme de ménage dans les maisons, et je prends ça pour faire mes besoins, c'est ça.
Donc ça veut dire que vous êtes coach bénévole et que vous ne touchez ni pension ni retraite de votre carrière de sportif de haut niveau?
Non, c'est une décision qui vient de la Fédération de la lutte Sénégal.
Qui a supprimé les salaires des entraîneurs en fait?
Ouais, aujourd'hui ça n'est arrivé là, donc je n'y peux rien.
Isabelle, qu'est-ce que vous dites aux jeunes femmes qui veulent devenir lutteuses? Comment elles peuvent croire en ce rêve et finalement marcher dans vos traces?
La première des choses, il faut faire des études. Parce que le sport, ça marche avec l'étude. Et ceux qui aiment le sport, je les ai dit, fonce. Parce que c'est quelque chose de bien. Ça transmet des valeurs. C'est pour cela que je dis, c'est quelque chose qui va te faire demain, qui va être respecté par tout le monde. C'est important de défendre la couleur de ton pays. Et ça te donne de la joie. Ça m'a ouvert pour le reste du monde. Ça m'a fait voyager. Avec tous mes parcours que j'ai fait dans la lutte, je n'ai jamais regretté.
Isabelle, si je vous dis l'Afrique qui gagne, pour vous, qu'est-ce que ça évoque?
Pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est beaucoup de femmes au podium dans les compétitions. C'est ça.
Isabelle Sambou, qui fait des ménages pour avoir la chance de coacher l'équipe mixte du Sénégal, pour l'amour du sport finalement. Théo Curin.
Ouais, c'est dingue, grand respect à cette femme. Je trouve ça complètement dingue et par l'amour du sport, elle fait des choses extraordinaires, donc c'est dingue.
Un message aussi de Fauziatou qui vous écrit directement. Théo Curin, elle est basketteuse béninoise en fauteuil à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle nous dit, après mon accident, c'est la passion du sport et du basket qui m'a aidée à remonter la pente et à être résiliente. J'ai trouvé mon équilibre dans une équipe de basket en fauteuil. Théo est incroyable et inspirant. Vous auriez aimé choisir un autre sport?
J'ai essayé le basket fauteuil avant d'être nageur et j'étais pas super bon. Donc je ne regrette pas ces choix-là, mais le basket ça reste un super sport. Donc une grande bise à nos amis du basket fauteuil.
Les prochains défis, puisque maintenant vous avez quitté l'équipe de France de natation handisport, vous avez clairement bifurqué vers l'aventure, la performance sportive mise au service de l'aventure et de l'environnement. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous nous préparez plutôt?
Je vais tenter de faire la Santa Fe Coronda. C'est une course qui se situe en Argentine, cette fois-ci tout seul. Donc c'est une course de 57 km que je vais réaliser en novembre prochain dans une eau boueuse et avec beaucoup de courant.
Et comment vous vous entraînez?
Je m'entraîne tous les jours à Paris pour le moment, mais cet été, je vais avoir des stages en eau libre, encore une fois, donc dans des milieux naturels, et nager des heures et des heures sans s'arrêter. Voilà.
Qu'est-ce qui vous plaît quand vous êtes dans cette eau libre par rapport à vos 7 années d'entraînement en piscine?
C'est tout simplement le fait d'être en pleine nature, de sentir aussi la nature, c'est assez fort. Parce que par exemple, à Titicaca, on a bien vu que la nature était encore bien plus forte que nous, et tant mieux. Et c'est ça qui me plaît.
Merci Théo Curin, La chance de ma vie, J'ai fait de ma différence une force. C'est publié chez Flammarion. Merci d'être passé chez 7 milliards de voisins.
Merci à vous.
Merci à l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont disponibles évidemment en podcast sur les plateformes de téléchargement. On va même poster une petite photo de Théo Curin sur notre page Instagram. Lundi, 7 milliards de voisins, nous serons de retour pour une nouvelle émission. À lundi les voisins.